Chapitre 32. Nous avons parlé de l'absence faite par Pompée pour approvisionner Rome. Il s'était rendu lui-même en Sicile, en Sardaigne et en Afrique et avait fait des approvisionnements considérables. Au moment où il allait se mettre en mer pour les conduire à Rome, un vent impétueux s'éleva. Tout le monde s'opposait à ce que Pompée partît. Mais il monta sur le premier vaisseau en donnant ordre de mettre à la voile et en disant « Il est nécessaire que je parte, il ne l'est pas que je vive. » Pompée est encore dans sa période de bonheur. Aussi, l'histoire se souvient des mots qu'il dit. Mais vienne Pharsale et elle les oubliera pour consigner ceux de César. Quelque temps auparavant, Pompée avait fait une autre absence. Après avoir combattu pendant le printemps, l'été et l'automne, quand les pluies détrempaient les chemins, quand les neiges interceptaient les passages, quand les fleuves, charriant des glaces, cessaient d'être navigables, César venait tenir sa cour à Luc. Tenir sa cour, c'était le mot. On n'entendait parler de lui à Rome que pour citer un nouveau nom de victoire. Pendant que ses rivaux s'amoindrissaient dans les émeutes de Carrefour, lui, pareil à un autre Adamastor, grandissait à l'horizon. Tout ce qu'il y avait de plus illustre à Rome et en province venait à Luc. C'était Appius, gouverneur de Sardaigne, c'était Nepos, proconsul d'Espagne, etc. Pendant l'hiver de 696, il y avait à Luc 120 licteurs portant faisceaux et plus de 200 sénateurs. Crassus et Pompée y étaient venus. Les liens du triumvirat étaient quelque peu relâchés. On les resserra dans cette entrevue. C'est là qu'il fut décidé que César garderait 5 ans de plus le proconsulat des Gaules, que Pompée et Crassus se feraient nommer consuls, et que Crassus et Pompée se feraient donner des gouvernements de province afin de tenir entre leurs mains toutes les troupes de la République. Pour arriver à l'élection de Crassus et de Pompée, César écrivait à tous ses amis de Rome. Il devait donner des congés à un grand nombre de ses soldats, de façon qu'ils fussent libres d'aller donner leur suffrage dans les comices. Ces projets étaient arrêtés pour l'an 699 de Rome, 55 ans avant Jésus-Christ. Or, les événements que nous avons racontés dans ce dernier chapitre nous mènent à l'année 698. Cette année 698 se passe sans grands événements. Claudius est complètement maté. Il enfonce bien encore ça et là quelques portes, met bien le feu à quelques maisons, brise bien quelques côtes à droite et à gauche, mais il ressemble au bouledogue muselé de mon ami Jadin, qui est forcé de laisser la levrette et le King Charles manger dans son plat. Cicéron mange si bien dans le plat de Claudius que, profitant de l'absence de celui-ci, il se rend au Capitole et brise les tablettes tribunitiennes où étaient inscrits les actes de son tribunat. Claudius reparut pour crier à l'illégalité. On a vu des voleurs qui, au moment d'être arrêtés, criaient à la garde. Cicéron répondit par un de ses dilemmes habituels. Du moment que Claudius était patricien, il ne pouvait être tribun du peuple. Ne pouvant pas être tribun du peuple, les actes de son tribunat sont non avenus. Les actes de son tribunat non avenus, il est permis à chacun de les détruire. Mais par cette destruction, Cicéron se fit avec Caton une querelle à laquelle il ne s'attendait pas. Sur ces tablettes étaient inscrites les missions de Caton à Byzance et en Chypre. Or, Caton tenait beaucoup à ce que cette trace de son passage au milieu des affaires publiques ne disparût point. Comment ce débat finit-il? Par malheur, Cicéron n'en parle pas dans ses lettres et plus tard que n'en dit que ce peu de mots. Par cela, Cicéron frappa Caton d'un coup qui n'eut point de retentissement, mais qui, cependant, jeta un grand froid sur leur amitié. Toute cette année se passa, on ne sait comment, en petites tracasseries. Pompée charge Gabinius de rétablir Ptolémée dans ses états et Gabinius revient, pliant sous les millions, ce qui donne à Crassus un désir d'autant plus grand d'aller en Syrie. Mais pour cela, nous l'avons dit, il faut d'abord que Crassus et Pompée soient consuls. On entre dans l'année 699 de Rome. Partout, le bruit courait qu'à la suite d'une conférence avec César, le monde avait été partagé entre ces trois hommes. Lorsqu'on sut que Pompée et Crassus se présentaient ensemble au consulat, on n'en fit plus de doute. Brigueras-tu le consulat ? Demandèrent ensemble Marcellicus et Domitius à Pompée. Peut-être oui, peut-être non, répondit celui-ci. Mais enfin, à une demande positive, fais une réponse positive. Eh bien, dit Pompée, je le briguerai dans l'intérêt des bons et contre les méchants. Une pareille alliance n'était pas rassurante pour tout ce qui tenait encore quelque peu, nous ne dirons pas à la République, mais au nom de la République. On s'adressa à Crassus. Sa réponse fut un peu plus modeste. « Je briguerai cette magistrature, dit-il, si je crois pouvoir être utile à l'État, sinon je m'abstiendrai. » Cette réponse orgueilleuse de Pompée, cette réponse ambiguë de Crassus, firent que quelques compétiteurs osèrent se mettre sur les rangs. Mais lorsque la situation se fut nettement dessinée, lorsqu'on vit Crassus et Pompée se présenter officiellement, tous les candidats se retirèrent, à l'exception de Domitius. C'était encore Caton qui le soutenait, de même qu'il avait soutenu Bibulus contre César. Caton, on le sait, ne se gênait pas. Il allait par les places publiques, disant que ce n'était pas en réalité le consulat que demandaient Pompée et Crassus, mais la tyrannie, que leur but n'était pas une magistrature à Rome, mais la possession de provinces importantes, mais de forts gouvernements militaires. Et en semant ses paroles, en soutenant ses allégations, il poussait Domitius, lui disant de ne pas perdre espoir et lui persuadant qu'il combattait pour la liberté commune. Et tout autour d'eux, on répétait « En effet, Caton a raison. Pourquoi donc ces hommes, qui ont déjà été consuls ensemble, prétendent-ils ensemble à un second consulat? Pourquoi ensemble et non pas l'un d'eux seulement ? Rome manque-t-elle donc de citoyens qui soient dignes d'être les collègues de Crassus et de Pompée ?» Pompée s'effraya. Dans ces sortes de luttes, Pompée s'effrayait facilement. Alors, en véritable soldat, il avait recours à la force. Une embuscade fut dressée contre Domitius, et comme celui-ci se rendait au forum avant le jour, avec quelques-uns de ses amis, parmi lesquels était Caton, les hommes de Pompée se jetèrent sur la petite troupe, ni plus ni moins que s'ils étaient des hommes de Clodius, tuèrent les serviteurs qui portaient la torche et blessèrent Caton. Heureusement, on était encore assez près de la maison de Domitius. Celui-ci et les quelques amis qui lui restaient s'y réfugièrent. Les hommes de Pompée établirent alors le blocus de la maison et, en l'absence de leur rival, Pompée et Crassus se firent tranquillement nommer consuls. Mais un danger les menaçait. Caton sollicitait la préture. Caton, dont il venait de se faire un ennemi mortel et qui était à peine guéri de la blessure qu'il avait reçue en conduisant Domitius au forum. Aussi ne fut-ce point par la violence que l'on résolut d'écarter Caton. Caton avait la voix haute à tout prendre et quand elle criait, cette voix était, sinon écoutée, du moins entendue dans Rome. Crassus et Pompée étaient riches. On sema quelques millions parmi les tribus. Caton échoua. Antias et Vatinius furent nommés prêteurs. C'étaient les créatures de Pompée et de Crassus. Sûrs de n'avoir plus d'opposition, ceux-ci poussèrent alors en avant le tribun du peuple Tribonius, lequel proclama les décrets rédigés à Luc. César fut continué pour 5 ans dans son gouvernement des Gaules. Crassus et Pompée tirèrent au sort la Syrie et les deux Espagnes. La Syrie échut à Crassus et les deux Espagnes à Pompée. Tous avaient ce qu'ils désiraient. Crassus, qui voulait la Syrie pour avoir la guerre des Parthes, avait la Syrie. Pompée, qui connaissait l'Espagne et qui comptait réunir là, c'est-à-dire aux portes de l'Italie, les soldats dont un jour il pouvait avoir besoin pour ses projets, obtenait l'Espagne et n'était point obligé de quitter sa femme, dont il devenait de plus en plus amoureux. Enfin, le peuple, qui croyait que rien ne pouvait se faire à Rome que par Pompée, gardait Pompée à Rome. Mais de tous, le plus joyeux, c'était Crassus. Les millions de Gabinius empêchaient Crassus de dormir. Entre Miltiade et Thémistocle, il s'agissait de lauriers. Entre Gabinius et Crassus, il s'agissait de millions.